Alors, parmi personnes qui sont nées et qui ont grandi dans cette église, il y a des personnes qui sont arrivées peut-être depuis quelques années, même peut-être des personnes qui y mettent les pieds pour la première fois. Bienvenue à vous tout particulièrement, aux autres aussi quand même. Mais si on se retrouve ce matin, c'est parce qu'on a quelque chose en commun. On ne vient pas ici par hasard. Nous aimons le Seigneur, nous aimons nos frères et sœurs en Christ. Et pour beaucoup d'entre nous, surtout les habitués, nous aimons cette communauté. Pour ceux qui viennent pour la première fois, ça viendra très vite, vous inquiétez pas. Et il y a une préoccupation que nous partageons très certainement. Nous souhaitons de tout cœur que cette église, notamment cette communauté, puisse œuvrer pour le Seigneur. Qu'elle puisse faire la volonté de Dieu. Problème, pour faire la volonté de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. Et là, il faut l'avouer, on n'est pas toujours d'accord. Et en tant que pasteur de cette communauté, c'est aussi une de mes préoccupations premières, avec les autres responsables de cette communauté, notamment, pas que, mais notamment, connaître la volonté de Dieu pour nous. Et j'avoue que parfois, ça m'arrive, je suis un peu perdu, et j'en arrive à souhaiter que Dieu me donne un signe, ou une prophétie, pour que ça soit un peu plus clair, pour m'éviter de me prendre la tête, à trop réfléchir, et surtout pour éviter de me planter. Nouveau problème, quand on est dans l'attente d'un signe, on se met à en voir partout. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, si ça vous l'a déjà fait, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Et nous allons étudier ce matin un texte qui raconte une histoire, l'histoire d'un roi. Un roi qui veut connaître la volonté de Dieu, et qui reçoit malheureusement plusieurs prophéties qui se contredisent. Alors nous verrons si nous pouvons en tirer quelques conseils. Alors ce texte est long, très long, mais c'est une histoire, donc j'espère que ça s'écoute tout seul. Ce texte se trouve dans 1 Roi, au chapitre 22, les versets 1 à 28. Trois années s'écoulèrent sans qu'il n'y ait de guerre entre la Syrie et Israël. Dans le courant de la troisième année, Josaphat, le roi de Juda, rendit visite à Akab, le roi d'Israël. Or, celui-ci avait dit à ses ministres, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et pourtant nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie ?» Quand Josaphat vint le voir, Akab lui demanda donc, « Viendras-tu attaquer avec moi Ramoth en Galaad ?» Josaphat lui répondit, « J'irai avec toi, mes troupes iront avec les tiennes et mes chevaux avec les tiens. » Mais il ajouta, « Consulte d'abord l'Éternel, je te prie. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes qui étaient environ 400 et il leur demanda, « Dois-je aller combattre pour reprendre Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Vas-y, le Seigneur la livrera au roi. » Mais Josaphat insista, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël lui répondit, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne m'annonce jamais rien de bon. Il ne m'annonce que du mal. Il s'agit de Michée, fils de Yimla. » Josaphat s'écria, « Que le roi ne parle pas ainsi !» Alors le roi d'Israël appela un chambellan et lui ordonna de faire venir au plus vite Michée, fils de Yimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, revêtus de leurs costumes royaux, siégeaient sur un trône sur l'esplanade qui s'étend devant la porte de Samarie, tandis que tous les prophètes étaient devant eux dans un état d'exaltation. L'un d'eux, Sédécias, fils de Kenanna, s'était fabriqué des cornes de fer et affirmé « Voici ce que déclare l'Éternel, avec ses cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à leur extermination. » Tous les autres prophètes confirmaient ce message et disaient, « Va attaquer Ramoth en Galaad, tu seras vainqueur et l'Éternel livrera la ville au roi. » Pendant ce temps, le messager qui était allé chercher Michée lui dit, « Tous les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Tu ferais bien de parler comme eux et de lui prédire aussi le succès. » Michée lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je transmettrai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé devant le roi, celui-ci lui demanda « Miché, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer ?»« Bien sûr, vas-y !» lui répondit Miché, « Tu seras vainqueur et l'Éternel livrera, dit le roi. » Mais le roi lui rétorqua, « Combien de fois faudra-t-il que je t'adjure de me dire seulement la vérité de la part de l'Éternel ?» Alors Miché déclara, « J'ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes. Ils ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de berger. » Et l'Éternel a dit, « Ces gens n'ont plus de souverain. Que chacun d'eux retourne tranquillement chez soi. » Le roi d'Israël dit alors à Josaphat, « Je te l'avais bien dit, cet homme-là ne me prophétise jamais rien de bon, c'est toujours du mal. » Mais Miché continua, « Eh bien oui, écoute ce que dit l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel demanda, « Qui trompera Akab pour qu'il tombe ?» pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galaad et qu'il tombe sur le champ de bataille. L'un proposait ceci, l'autre cela. Finalement, un esprit s'avança, se plaça devant l'Éternel et dit « Moi, je le tromperai ». L'Éternel lui demanda « Et comment t'y prendras-tu » « J'irai, répondit-il, inspirer des mensonges à tous ces prophètes. » L'Éternel dit « Pour sûr, tu le tromperas, tu y réussiras. Va donc et fais comme tu l'as dit. » Et maintenant, conclut Miché, c'est ce qui est arrivé. L'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspire tous tes prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. Alors, Sédécias, fils de Kenaana, l'un des prophètes, s'approcha, gifla Miché et lui demanda, « Par où l'esprit qui vient de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Miché répondit, « Tu le sauras le jour où tu fuiras en passant de chambre en chambre pour te cacher. » Aussitôt, le roi d'Israël ordonna à l'un des officiers, « Arrête Miché et emmène-le à Amon, le gouverneur de la ville, et à mon fils Joas. Tu leur ordonneras de ma part de jeter cet individu en prison et de ne lui donner qu'une ration réduite de pain et d'eau, jusqu'à ce que je revienne sain et sauf de cette expédition. » Miché s'écria, « Si vraiment tu reviens sain et sauf, ce sera la preuve que l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Et on va arrêter là cette longue lecture. Alors, tout d'abord, un petit rappel de contexte historique pour bien comprendre ce qui se passe. Ce passage se déroule pendant le règne du roi Akab sur le pays d'Israël du Nord, appelé juste Israël dans le texte, et sous le règne de Josaphat sur le royaume de Juda, qu'on appelle aussi Israël du Sud. Le pays est divisé en deux avec deux rois. Et c'est dans Israël du Sud, à Juda, que se trouve, entre autres, Jérusalem et le temple de Dieu. Akab est un roi mauvais. C'est un roi mauvais dont il est dit, juste avant notre texte, « En vérité, personne ne s'était jamais vendu au mal, autant qu'Akab, en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. » Poussé par sa femme, Jézabel, il adorait des idoles, il poussait le peuple à faire de même, et il persécutait les prophètes du Seigneur. C'est pour ça que dans notre texte, il en reste plus qu'un. Dans le chapitre précédent notre passage, Akab et Jézabel font mettre à mort un homme appelé Naboth. Ils le condamnent après un jugement tronqué, des fausses accusations, de faux témoignages. Tout ça parce qu'Akab voulait la vigne de Naboth et Naboth ne voulait pas la lui vendre. C'était l'héritage de ses pères. Akab la voulait, il l'a fait mettre à mort et il a pris la vigne. C'est en réponse notamment au meurtre de Naboth, en plus de tout le mal qu'Akab avait déjà fait, que Dieu annonce à Akab qu'il va le faire mourir. Et nous voici 3 ans plus tard avec notre texte. Akab veut attaquer les Syriens pour reprendre la ville de Ramoth. Et pour cela, il demande au roi de Juda, Josaphat, de partir en guerre avec lui. Josaphat accepte, et c'est en fait pendant cette guerre qu'Akab sera tué, conformément à la prophétie donnée par le Seigneur. Josaphat veut bien partir en guerre avec Akab, mais avant, il veut savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. On en revient à notre thème. Il faut savoir qu'à l'époque, un roi ne partez jamais en guerre sans consulter ses dieux avant. Et donc forcément ses prophètes qui parlent au nom des dieux. Et si, comme Akab, un roi n'hésitait pas à faire tuer les prophètes qui ne lui plaisaient pas, les prophètes avaient plutôt intérêt à toujours être d'accord avec lui, à lui prédire des victoires faciles, de bonnes choses. Akab fait donc venir ses prophètes à lui, ses prophètes perso, et il leur demande s'ils doivent partir en guerre ou non. Et bien sûr, on l'a vu, tous lui prédisent une victoire facile. Ils sont pas fous. Mais Josaphat, le roi de Juda, se rend bien compte que tous ses prophètes ne font que flatter Akab, ils lui mentent. Mais lui veut connaître la volonté de l'Éternel. Il exige donc un prophète de l'Éternel. Et Akab envoie chercher Michée. Alors ce n'est pas le Michée, auteur du livre de Michée dans la Bible, qui vivra 150 ans plus tard environ. C'est juste un autre prophète qui s'appelle aussi Michée. Enfin bref. Michée est donc amené devant les deux rois et il commence par se moquer un petit peu du roi Akab dans le texte. Parce que de manière très ironique, il prédit mot pour mot la même chose que les faux prophètes, ceux qui mentaient. Mais Akab voit bien qu'il se moque de lui, il voit qu'il ment et il exige la vérité. Michée redevient alors sérieux et il prédit la mort d'Akab dans cette guerre. Et la réponse ne plaît pas à Akab. Alors il y a quelque chose d'étrange dans ce texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même de grosses, grosses contradictions dans les réactions des personnages. Ils ne sont pas du tout cohérents. Il y a un truc qui cloche. Quelques exemples. Akab ne voit pas que les faux prophètes mentent quand ils prédisent la fin, alors qu'il voit que Michée ment lorsqu'il annonce exactement la même chose. Ils disent la même chose mot pour mot, ils croient les uns, et ils reconnaissent que l'autre ment. C'est bizarre. Autre incohérence. Akab dit une première fois qu'il n'aime pas Michée parce qu'il ne prédit que du mal, et le roi Josaphat défend le prophète. Il dit à Akab, attends, tu peux pas dire du mal d'un prophète de l'Éternel juste parce que les prophéties te plaisent pas, c'est la parole de Dieu, enfin tu peux pas dire ça. Il défend le prophète. Mais une fois que Michée est venu, qu'il a prophétisé, Akab va répéter la même chose, qu'il n'aime pas Michée parce qu'il ne prédit que du mal, et cette fois, Josaphat ne le défend plus. 5 minutes avant, il le défend, Akab redit la même chose, et là, il ne le défend plus. C'est bizarre. Autre incohérence. Josaphat, le roi de Juda, voit bien que les faux prophètes, lorsqu'ils prédisent la victoire, mentent. Ils sont en train de flatter Akab. C'est pour ça que lui exige un prophète de l'Éternel. Il veut la vérité. Il voit que les faux prophètes mentent. Akab, lui, voit le mensonge chez Michée. On l'a déjà dit lorsqu'il dit la même chose que les faux prophètes. Donc tous les deux, à un moment donné, voient le mensonge dans la réponse « Tu auras la victoire ». Et pourtant, quand Michée dit la vérité, c'est-à-dire qu'Akab va mourir, aucun ne va l'écouter et ils vont partir en guerre quand même. On dirait que quelque chose les empêche de voir la vérité, alors qu'ils arrivent très bien à voir le mensonge. Ils voient ce qui est faux, pas ce qui est vrai. Ils ont du discernement, quand même, ils sont capables de discerner le mensonge, mais pourtant la bonne réponse, ils ne la voient pas. Pourtant, il n'y a que 2 réponses possibles à la question. La question, est-ce qu'on doit partir en guerre ou pas? On peut répondre oui, vous aurez la victoire, ou non, vous allez perdre. Donc si on discerne qu'une des réponses est fausse, bah, fatalement l'autre elle est vraie. Mais là, ils arrivent à discerner la réponse fausse, mais pas la vraie. C'est comme s'ils ne voyaient pas l'autre réponse. Il y a une sorte de blocage. Michée nous donne l'explication en racontant une vision qu'il a eue. En fait, Dieu a envoyé un esprit de mensonge pour empêcher Akab et Josaphat de voir la vérité. Le but, en fait, c'est qu'Akab parte en guerre et meure en punition de tous ses crimes affreux. Cet esprit de mensonge les empêche de faire preuve de discernement, de voir la vérité. Voilà pourquoi les réactions des personnages sont si bizarres, en fait, dans cette histoire. Il y a trois choses essentielles que nous pouvons retenir de ce texte dans notre recherche de la volonté de Dieu. Premièrement, on peut penser que connaître la volonté de Dieu, c'est plus simple lorsqu'on reçoit un signe ou une prophétie. Pourtant, ce texte nous montre qu'il existe de vraies prophéties, mais aussi de fausses prophéties. Des signes qui viennent de Dieu pour montrer sa volonté et d'autres qui sont le reflet de la volonté des hommes ou de nos propres envies. Il nous faut alors faire preuve de discernement pour voir le vrai du faux, la volonté de Dieu de ce qui ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple en vous racontant une autre petite histoire, une histoire qui, j'avoue, me fait bien marrer. Un de nos professeurs à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine nous a raconté cette histoire, l'histoire qui lui est arrivée. Ce professeur enseigne aussi à l'Institut biblique de Nogent. Et à l'Institut, il y a un foyer mixte où habitent les étudiants. Et un jour, une étudiante, une très belle jeune fille, selon lui, vient le voir pour lui demander conseil. Elle lui dit « Voilà, un garçon est venu me voir l'autre jour et il m'a dit « Le Seigneur m'a montré que c'est toi la femme que je dois épouser. » Notre professeur, un peu usé et gêné à la fois, lui dit « Tu sais, je ne veux pas remettre en question ce que ce garçon a pu recevoir du Seigneur, mais tu dois faire un choix sans tenir compte de ce qu'il t'a dit. Tu dois regarder si tu aimes ce jeune homme, si tu veux passer ta vie avec lui. » Et là, elle le coupe en disant « Non, non, c'est pas ça le problème, je lui ai déjà dit non. » Alors, pourquoi tu viens me voir ?» Elle lui dit « J'aimerais un conseil pour faire que ça s'arrête. Parce que c'est déjà le 10e garçon à venir me dire exactement la même chose depuis le début de l'année. » Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Tous ces jeunes hommes ont-ils reçu de vrais signes de la part du Seigneur? Vu que Dieu n'encourage ni la polyandrie ni la polygamie, force est de constater qu'au moins 9 de ces jeunes hommes, si ce n'est les 10, se trompent. Ils ont tous une attirance pour cette très belle jeune fille. Ils demandent tous un signe à Dieu pour savoir s'ils doivent se lancer auprès d'elle ou pas. Et manifestement, ils n'arrivent pas à faire preuve de discernement parce que leurs sentiments très forts orientent leur compréhension des choses et leur désir pour cette jeune femme les pousse à voir un signe allant dans ce sens. Dans notre texte, avec le roi Akab, c'est un esprit de mensonge qui court-circuite le discernement d'Akab et de Josaphat. Dans l'autre histoire, ce sont des sentiments très forts qui empêchent ces jeunes gens d'avoir du discernement. Dieu peut très bien nous donner des signes, et nous sommes même en droit de lui en demander, nous dit la parole de Dieu. Il n'y a rien de mal à ça. Mais cela ne nous dispense pas de faire preuve d'esprit critique, de discernement. L'apôtre Paul dit ceci en 1 Corinthiens 14, verset 29. Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Dieu nous a donné une intelligence et il veut que nous nous en servions. Son désir profond, c'est que nous apprenions à le connaître, que nous ayons une relation intime et réfléchie avec lui. Et c'est aussi notre meilleure compréhension de qui est Dieu qui nous permet de mieux connaître sa volonté. Pour apprendre à le connaître, nous avons sa parole qui nous parle de lui et de sa volonté. Nous avons la prière pour rester en dialogue avec lui, pour entretenir une relation vraie, pour rester à son écoute. Et nous avons aussi notre intelligence pour admirer notre Dieu, pour réfléchir sur sa personne, son œuvre et sur sa volonté pour nous. Nous avons ces trois choses, parole de Dieu, prière et intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Et il nous faut travailler les trois, les développer pour toujours mieux connaître le Seigneur et sa volonté. C'est la première chose que nous pouvons tirer de ce texte. Mais comment être sûr à 100% dans ce cas qu'une prophétie est vraie? Même si on réfléchit, qu'on prie, qu'on lit la Bible, il y a toujours un risque qu'on se plante. Eh bien, ce texte nous dit que, oui, il y a toujours un risque. En effet, Akab fait mettre Micha en prison jusqu'à son retour victorieux, qui n'aura pas lieu, il va mourir durant la bataille. Et Michée répond ceci au roi Achab. « Si vraiment tu reviens sain et sauf, ce sera la preuve que l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Le seul vrai moyen sûr à 100% pour savoir si une prophétie ou un signe sont vrais, c'est uniquement a posteriori. S'ils s'accomplissent, alors ils sont vrais. Cela confirme aussi ce qui est dit dans le Deutéronome, au chapitre 18, au sujet de la prophétie et des prophètes. Il nous est dit, peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel ? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, le message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Arrivé là, on peut penser que c'est un petit peu quand même une sorte d'arnaque. À quoi ça sert de recevoir une prophétie si finalement on ne peut pas savoir si elle est vraie ou pas ? Quand on demande un signe, c'est qu'il nous faut prendre une décision maintenant, pas plus tard. Par exemple, pour les 10 jeunes hommes de notre histoire, ils vont pas attendre de voir s'ils épousent effectivement la jeune fille pour se dire « Ah, la prophétie était vraie, je vais aller la demander en mariage. » C'est maintenant qu'ils doivent savoir. C'est maintenant qu'ils doivent décider. Eh bien, c'est la deuxième chose que ce texte nous apprend. Premièrement, il nous faut du discernement, nous l'avons vu. Et donc, fatalement, deuxièmement, il nous faut faire des choix. Il ne faut pas rester bloqué face à un signe potentiel, face à un risque de se tromper, face à l'incertitude ou à la crainte. Il nous faut faire marcher notre connaissance de Dieu, prier, discerner, et de toute façon, au final, avancer par un choix. Achab a fait un choix, au final. Il décide de partir en guerre, mais il fait le mauvais choix, parce que son discernement est bloqué. Les 10 garçons font un choix aussi, au final. Demander la jeune fille en mariage, même si, j'avoue, la demande est bizarre, je conseille ça à personne. Mais leur mauvais choix, c'est pas de se lancer auprès de la demoiselle, ils ont tout à fait le droit, c'est un choix légitime. Non, leur erreur, c'est de vouloir influencer la fille par un signe qui en plus est avéré bidon. Dans leur demande qui est un choix légitime, ils ont fait de mauvais choix et se sont plantés. L'appel de Dieu au discernement entraîne logiquement l'appel au choix. Et il y a une troisième et dernière chose que nous pouvons retirer de ce texte. C'est qu'il existe des personnes comme Michée qui sont reconnues comme des prophètes authentiques et d'autres personnes comme les 400 autres faux prophètes qui ne le sont pas. Le passage de Deutéronome 18 que nous avons lu nous dit que si une prophétie ne se réalise pas, c'est que le prophète est bidon. Et on ne tiendra donc pas compte de ses prophéties futures. Mais si quelqu'un vient nous donner des conseils, nous pousser vers un choix, une fois, on se rend compte après coup qu'il avait raison. Deux fois, après coup, on se rend compte qu'il avait encore raison. Trois, quatre, cinq, 10 fois, idem. On serait bête de ne pas tenir compte de ses conseils à l'avenir. Il y a des personnes parmi nous dont la sagesse, l'humilité, la vérité de parole sont, à l'usage, reconnues par tous. On n'a pas à se laisser impressionner par le premier pseudo-prophète venu si on ne le connaît pas, même s'il semble très convaincant. Les prophètes du roi Achab étaient tous en transe, nous dit le texte, en exaltation. Ça devait quand même être super impressionnant, super convaincant. 400 prophètes en transe qui disent la même chose. Et pourtant, ils ont faux. Mais dans notre communauté, où nous apprenons à nous connaître les uns les autres, où nous partageons nos expériences, nos difficultés, où nous étudions la Bible ensemble, avec le temps, on discerne des personnes dont les conseils sont reconnus plus sages que d'autres. Des personnes qui soit donnent des prophéties qui s'avèrent être vraies, soit qui donnent des conseils reconnus pour leur sagesse. Ces personnes-là, ces vrais prophètes, ont une parole dont nous pouvons tenir compte, dont nous devons tenir compte, qui peut nous éclairer dans notre recherche, dans notre discernement et dans nos choix. Achab a eu tout faux. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas faire preuve de discernement. Il a donc fait les mauvais choix de vie et il a choisi de ne pas écouter celui qui était reconnu comme un prophète de l'Éternel. Signe ou pas signe, prophétie ou pas prophétie, tous les cas, il nous faut absolument tenir compte de ces trois choses dans notre recherche de la volonté de Dieu, personnelle ou communautaire. Ne suivre aucun avis, conseil ou signe avant d'avoir fait preuve de discernement, avant d'avoir réfléchi, creusé la question. Ensuite, ne pas rester bloqué face à l'incertitude, car il nous faut bien avancer. Et donc, il nous faut faire un choix. Il ne nous faut pas rester bloqué là où nous sommes. Il nous faut avancer dans les défis qui se présentent à nous. Et dans cette recherche du bon choix, nous pouvons compter naturellement sur la prière, la parole de Dieu et notre intelligence, mais aussi sur des personnes, sur la communauté, sur des personnes humbles et sages qui peuvent nous conseiller et nous éclairer. Alors, ne nous fermons pas à leurs conseils avisés. Que Dieu guide notre intelligence dans nos différents choix de vie, dans nos réflexions, notamment nos réflexions communautaires, dans notre œuvre pour lui, pour que nous puissions participer à l'accomplissement de sa volonté. Amen.